Radio Campus 88.3.
I love you.
www.orléans.radiocampus.org.
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenché au palais de la
Sécurité. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
À bâton rompu, de retour sur l'antenne des deux radios campus de la région Centre-Val de Loire, Campus Orléans et Campus Tours, pour une nouvelle saison. C'est la rentrée et nous entendrons dans l'émission le nouveau recteur de l'Académie d'Orléans-Tours, Jean-Philippe Agresti, une interview réalisée par Thomas Deret. Thomas est avec moi en studio. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Hassan.
C'est une interview que tu as réalisée, une conférence de presse.
Ouais, hein, une conférence de presse. On va quand même être un petit peu honnête. On était avec d'autres confrères et pas de consoeurs, non. Il n'y avait que des confrères sur place. Voilà.
Bon. Elles ne sont pas intéressées par l'éducation, les filles.
Moi aussi, je pense. Mais bon, là, le fait est qu'il n'y a eu que des hommes.
C'est une conférence de presse pour présenter la nouvelle rentrée, hein, pour lui qui est nouveau également.
La nouvelle rentrée et effectivement sa personnalité, puisqu'il a été nommé au mois de juillet.
Tout à fait.
Donc, c'était il y a moins de 2 mois.
C'est ça.
Forcément, tout frais, dans un contexte très particulier de rentrée, d'attente d'un nouveau gouvernement qui ne vient pas.
Il a déjà accueilli la ministre de l'Éducation nationale, c'était hier, tu y étais également.
Exactement, tout à fait, à l'école Pauline Kergomar, quartier de la Source, à Orléans.
Pas très loin de la radio, on écoutera tout ça juste après Mourad Guichard, qui revient cette année, messieurs, dames. On en est très contents, on le remercie, il nous écoute. Avec Mourad, on parle de la rentrée également, hein, pour la verrerie Duralex, qui présentait sa nouvelle scope. Vous savez qu'elle était sauvée, cette verrerie, d'un redressement judiciaire, et que des choses, de nouvelles choses, de belles choses sont en cours pour les salariés de la radio. Et nous parlons également de rentrée politique, tu en disais un mot tout à l'heure, cette rentrée qui est, je ne sais pas pour vous, amis auditeurs et auditrices, mais pour moi c'est assez insupportable, cette rentrée, pas de gouvernement, depuis 2 mois, une élection législative.
On va prendre des conseils auprès des Belges, hein, ils connaissent un peu plus ça.
Oui, mais c'est ce qu'ils disent, mais c'est un peu facile. En tout cas, nous aurons l'avis de deux personnalités politiques locales de la région Centre-Val de Loire, à commencer par le président de région, M. François Baudot, qui également recevait les journalistes pour sa rentrée. Et il nous dira ce qu'ils en pensent. J'ai eu une interview en long format avec le tout nouveau député Emmanuel Duplessis. Emmanuel Duplessis, député du Loiret, nouveau Aide-moi donc, nouveau...
De quoi le son parti
ouais.
Non
NFPC.
Ah oui, NFP, oui, Nouveau Front Populaire, pardon.
Nouveau
oui,
Front Populaire. Oui.
Et surtout, il vient de, comment, de, du mouvement de Benoît Hamon.
Absolument. Génération. Génération. Et qui nous dira comment ça s'est passé, parce qu'il a suivi les choses de près. Hein. Il est nouveau député, mais tout de suite, il y a eu des tractations et tout ça. Donc, l'interview est en format un peu long. Je lui ai également posé des questions sur l'université, parce qu'il y a quelques années, pas très lointaine, Emmanuel Duplessis était élu à l'Université d'Orléans. Oui. Comme étudiant, tu l'avais connu à ce moment-là.
Oui, je l'avais vu sur les bancs, notamment de la fac de droit, ouais. Puisqu'on est de la même génération, lui et moi.
Bon, alors, puisqu'on démarre et que la radio est toute nouvelle et toute propre, alors allez voir sur les réseaux sociaux de la radio, il y a plein de choses de nouvelles là devant moi, une nouvelle table, des écrans, on dirait. Encore mieux qu'avant les vacances, une cabine d'avion. Donc j'ai perdu mes jingles. forcément. Oh, donc on va commencer cette émission.
Voilà, le Père Noël a donné des cadeaux, mais il t'en a pris quoi.
Voilà, avec Mourad.
Il est venu un peu en avance.
Mourad Guichard tout de suite. Allez. Ah bah. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Eh ben oui, il faut que tu t'habitues à ta nouvelle table de mixage,
sûr,
Hassan.
Mais bien sûr. À bâton rompu, c'est parti pour une nouvelle saison. Bienvenue. Alors Mourad.
Et non, il vient pas là.
Ben non, on ne peut pas l'écouter. Alors je vais remettre Rimendel. Tu vas m'aider parce que toi tu connais bien le truc. Et j'y arrive pas. Ça marche pas comme je veux. Allez, à tout de suite. Et c'est quand même bien hein, d'avoir des jeunes gens qui sont habitués à toutes ces nouvelles technologies. Il m'a retrouvé Mourad, Thomas, écoutez-le. Vous écoutez à bâton rompu sur Radio Campus Orléans, Radio Campus Tours, et comme je vous l'annonçais, nous allons démarrer cette émission avec Mourad Guichard, journaliste indépendant, comme l'année dernière, comme l'année d'avant. Il va nous faire un décryptage de l'actualité, et puis là, l'actualité pour lui, c'est un papier dans le journal L'Humanité. Il était hier au lancement de la SCOP de la verrerie d'Uralex à la chapelle Saint-Mémin. Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toi Hassan.
Merci à toi d'être présent hein, au rendez-vous d'un bâton rompu cette année encore. Les vacances se sont bien passées.
Plutôt pas mal, plutôt reposante, assez longue pour une fois. Et ça se passait en bord de mer en Normandie, donc c'était plutôt voilà, on n'a pas été assassiné par la chaleur. Et c'était voilà, bah, après il y a eu la rentrée de la grande qui ont pris leur appartement du côté d'Angoulême, et puis bah, la rentrée du petit bonhomme Paul qui est déjà intervenu sur cette antenne aujourd'hui même, comme tous les enfants de France et de Navarre.
On parlera de la rentrée dans cette émission avec notamment une interview du nouveau recteur en fin d'émission. Restez donc à l'écoute. On parle avec toi tout de suite de ton dernier papier pour le journal L'Humanité, un article qui parle de la rentrée chez Duralex. Après plusieurs mois d'inquiétude, la verrerie de la chapelle Saint-Mesmin, je crois on dit, non ? Même
dans le petit film qu'ils ont diffusé, ils disaient Saint-Mesmin, alors que j'ai toujours entendu, moi depuis que je suis là, c'est-à-dire depuis un quart de siècle, j'ai toujours entendu dire la chapelle Saint-Mesmin, donc ça reste un mystère pour moi.
Ben on va rester sur la chapelle Saint-Mesmin. Célébrait hier son sauvetage et son passage en SCOP. Tu y étais, il y avait là une grande partie des 238 employés, des partenaires financiers, aussi des élus.
Oui, des élus, alors, et surtout beaucoup de journalistes.
Ah oui.
Et comme je le précisais d'entrée de jeu dans le papier paru aujourd'hui, dans le reportage paru aujourd'hui dans L'Humanité, généralement, et moi ça fait une grosse quinzaine d'années que je suis, voire même un peu moins de 20 ans, que je suis les affaires et les rebondissements de cette fameuse et célébrissime verrerie de Duralex, ex-Saint-Gobain. Et à chaque fois qu'on y allait, c'était évidemment pas pour des bonnes nouvelles, puisque ils ont eu à subir plusieurs ce qu'on appelle des patrons voyous, des repreneurs qui étaient là pour profiter des brevets, profiter du matériel et surtout pas pour développer l'usine. Donc voilà, ils ont eu comme ça 6 redressements judiciaires. On avait la crainte évidemment qu'on aille vers un 7e. Mais heureusement, il y a eu cette solution qui a été proposée très rapidement par les salariés une fois qu'ils ont appris leur nouveau déboire judiciaire et financier. Et donc, juste avant les vacances, tout le monde s'est mis en plan et vraiment tout le monde a joué le jeu, y compris la métropole d'Orléans et la région, et les banques évidemment, puisqu'il y avait il y a des garanties qui sont apportées par les collectivités. Et donc il y a cet élan, il y a cette envie de sauver cette marque fabuleuse qui a traversé les décennies et qui est connue de tous les Français et même à travers le monde. Et donc ils se sont cette fois-ci associés. Alors c'est parce que il y a des photos qui circulent qui peuvent paraître un peu bizarres. On voit le slip français, donc la
oui,
marque.
Oui, absolument. J'allais te poser la question.
Oui, et en fait ils se sont associés au slip français qui fabrique désormais des slips avec le logo Duralex. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et comment une partie des sommes récoltées pour la vente des slips, en fait, servira à abonder. Donc, c'est un partenariat. Ça servira à abonder la SCOP qui doit impérativement tenir financièrement. Et donc, je prends juste un exemple de financement. La région, en plus d'un million d'euros de prêts, va apporter 1 euro à chaque fois qu'un salarié mettra 1 euro au pot. Donc, ils vont doubler la mise. Oui. Voilà.
Très bien.
Et ça va permettre, j'espère, évidemment, de tenir dans le temps. Et donc, ce que je disais au départ, c'est qu'hier, il y avait, pour la première fois en 20 ans, une ambiance vraiment très particulière, c'est-à-dire que les salariés avaient tous le sourire, le nouveau directeur général, qui est quelqu'un d'assez bonhomique, semblait vraiment très excité par cette aventure, ainsi d'ailleurs que le responsable du développement. En fait, tous ont été sont passés à la tribune en faisant part de leur enthousiasme, et honnêtement ça fait très plaisir, et c'est rare dans le milieu industriel qu'on ait à raconter des belles histoires comme celle-ci.
Elle est belle cette histoire, mais il n'y a pas eu, on a cru voir là en début d'été lorsqu'il y a eu des discussions après la mise en redressement judiciaire, des politiques qui ont voulu récupérer le sauvetage à leur avantage, mais il n'y avait pas ça hier.
Non, hier c'était assez. D'ailleurs, Grouard et Bonneau étaient ensemble, presque main dans la main, j'ai envie de dire, sur l'estrade, et il n'y a pas eu de vacherie, il n'y a pas eu de pique, il n'y a pas eu de dissension. Chacun a cité l'autre. Donc non, très très honnêtement, hier c'était tout à fait cordial, et il n'y a pas eu de bataille parmi les huiles essentielles présentes. C'était tout à fait consensuel, y compris la préfète de la région était là aussi, et y est allée aussi de son couplet sur l'État qui avait aidé effectivement. L'entreprise au moment des dernières difficultés. Tout ça n'enlève pas la clairvoyance, c'est-à-dire que très concrètement, il va y avoir des défis très importants, et les, je vous en prends seulement deux. C'est le, évidemment, quand on fabrique du verre, vous imaginez bien le coût de l'énergie. Donc il va falloir réduire les coûts d'énergie le plus drastiquement possible, d'une part, et ce que je ne savais pas, le coût de, qui visiblement est important également, le coût de l'emballage. Et donc ils sont en train de travailler là-dessus, en plus évidemment de continuer à aller à l'export, et c'est 80% l'export, là, les ventes de Duralex, et y compris sur le marché intérieur, bien évidemment, ils comptent sur les collectivités, ils comptent sur les les écoles notamment, au travers des communes et aussi des collèges, au travers des départements, et puis les lycées au travers des régions, et pour passer les commandes, ouais, évidemment, et pour pouvoir y aller gaiement. Alors je vous invite vraiment à aller voir, parce que aller lire ce papier, on le retrouve en ligne également, sur le site de l'Humanité, parce qu'il y a des données chiffrées qui sont très intéressantes, notamment sur le nombre de modèles, sur les volumes produits chaque jour. Enfin, c'est assez impressionnant, et j'espère que ça va suffire. Et j'en termine là-dessus. J'espère que ça va suffire pour pérenniser, et d'une part, et surtout redresser les comptes de l'entreprise. Et que voilà, il y a très longtemps qu'on n'avait pas eu de scop, très longtemps.
C'est vrai.
Dans l'industrie, enfin à fortiori dans l'industrie. Eh bien, on pense à LIP, on pense au T de merde. J'ai oublié le nom, mais pas des courageuses. Je dis courageuses parce que c'était beaucoup de femmes qui avaient tenu une grève de je ne sais plus. Alors je suis désolé, j'ai pas le nom en tête, mais on va le retrouver.
On va le retrouver.
Qui se sont mis en autogestion, et qui ont donné le nombre de jours comme nom de ces nouvelles tisanes, de ces nouveautés. Et voilà, mais il n'y a pas tant d'exemples que ça, et donc ça fait plaisir d'assister en direct à la naissance d'une scop.
On leur souhaite évidemment très très bonne chance et aussi du courage. On va parler maintenant de la rentrée politique, Mourad, avec cette ambiance, je ne sais pas comment la qualifier d'ailleurs, où tout le monde est un peu inquiet, un peu agacé peut-être. Pas de Premier ministre depuis 2 mois, je crois, plus de 2 mois après l'élection. Le président de la région, on en parlait tout à l'heure, François Bonneau, a rencontré des journalistes pour sa rentrée il y a quelques jours. Il nous en parlait, écoutez ce qu'il disait.
Qui m'inquiète, qui n'est pas conforme aux traditions, aux exigences de la vie démocratique dans notre pays. Il n'y a pas de majorité absolue, c'est clair, mais ce n'est pas la première fois. Quand Mme Borne a pris les responsabilités de Premier ministre, elle l'a fait parce que la sensibilité politique qui s'était exprimée en majorité relative correspondait à la sienne. Donc il faut faire coïncider, ce qu'a du mal à faire le président de la République, faut faire coïncider le choix d'un Premier ministre à cette majorité relative. Et il faut que les composantes de cette majorité relative s'ouvrent aux autres pour qu'on puisse avancer. Mais on n'a pas le choix de faire ou de ne pas faire. C'est la réalité, c'est le choix de nos concitoyens. Ils ont fait un vote très important, nos concitoyens. Ils ont fait le choix de la République. Ils ont uni leurs forces, ils ont uni leurs voix. Parfois en allant soutenir un candidat qui n'est pas de leur famille politique, parce qu'ils voulaient défendre la République. Il faut qu'on ait une réponse à ce niveau-là. Et comme il n'y aura pas de majorité spontanée qui se fera comme ça, parce qu'il n'y a pas de bloc majoritaire en majorité absolue, il faut savoir discuter avec les autres. C'est ce que nous disons avec force. Moi, je le dis à l'intérieur de la formation politique qui est la mienne, Parti Socialiste, et je le dis très 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 globalement à mes concitoyens, on a entendu leur message, il était double, la République, toute la République, défendons la République, votons pour les formations républicaines, les formations politiques républicaines et leurs candidats, et le deuxième message, c'est la politique de M. Macron ne nous convient pas, et ne nous convient pas lorsque il passe en force sur la retraite, avec le 49-3, elle ne nous convient pas parce que c'est le pouvoir d'achat qui est aujourd'hui complètement, complètement contraint, restreint pour une part très importante de nos concitoyens, et ça devient intenable pour une part d'entre eux. Il ne nous convient pas cette politique parce qu'elle a fait fi des grands services publics essentiels dans notre société, que sont l'école, que la formation et que sont l'accès aux soins. Et donc, services publics, fiscalité, pouvoir d'achat, sur tous ces sujets-là, il faut une autre politique. Elle doit être portée par les représentants du pôle qui est arrivé en tête. Et ce pôle qui est arrivé en tête, puisqu'il n'est pas en majorité absolue, il doit s'ouvrir par le dialogue aux composantes de l'Assemblée nationale pour trouver les points de passage qui permettront de tenir compte des objectifs du programme, très clairement, très nettement et sans ambiguïté, mais aussi des aménagements nécessaires pour que ça avance.
Merci beaucoup.
de la
Mourad, cette situation est inquiétante. Ça fait donc plus de presque deux mois qu'il y a eu une élection législative, des élections législatives, et toujours pas de Premier ministre. Et ça continue, l'attente.
Oui, c'est une attente calculée, hein, comme c'est dit régulièrement, comme ça a été dit. C'est-à-dire que c'est quelque chose de voulu par le président de la République après l'explosion. L'implosion plutôt du Parlement et puis ce caprice là de pas vouloir nommer ou alors de chercher à nommer la personne la plus proche de la continuité de son programme et puis le déni total de tous les porte-flingues de Renaissance qui viennent sur les plateaux de télé à longueur de journées de semaines nous répéter depuis des mois que il y a pas de majorité alors qu'effectivement quand il y avait une non-majorité Renaissance, ça posait pas de problème de nommer en l'occurrence une première ministre. Et là, ça poserait un problème soudainement, alors qu'on a tous et toutes les extraits où il disait très clairement il y a quelques mois, quelques années que ça posait pas de problème du tout, que c'était normal, qu'ils étaient arrivés en tête et ainsi de suite. Donc tous les mensonges relayés notamment par les élitocrates du type Bruno Jeudy qui osent encore se montrer après l'affaire Sarkozy que je vous laisse aller voir chez nos confrères d'Arrêt sur Image où il échangeait des textos avec l'attaché de presse de Sarkozy en se félicitant des sorties qu'il a eues pour défendre Sarkozy dans l'affaire que vous savez. Et c'était je trouve ça extrêmement problématique puisque, comme je le dis souvent, les journalistes peuvent faire les pires choses et revenir sur les plateaux sans avoir la moindre excuse à présenter ni de compte à rendre et ça pose un problème démocratique. Je ferme la parenthèse. La leçon de ce qui se passe actuellement, c'est qu'on arrive, on est arrivé depuis longtemps. Bon, enfin là, c'est une preuve supplémentaire. On est arrivé vraiment au bout de la Ve République. Et sauf que le problème, c'est que pour réformer la Ve République, voire tourner la page, il y a un problème de personnels politiques qui sont à la fois juges et arbitres. Mmh. Et donc, ils vont pas décider eux-mêmes de sabrer la Ve République au risque de se voir battus d'une part ou alors d'avoir des comptes à rendre ou de ne plus pouvoir jouer comme ils le font à des espèces de déni de démocratie. Et là, je trouve que c'est d'une insolence. Je vais même employer le terme violence, en fait, puisque beaucoup d'observateurs un peu sérieux font le rapport avec le TCE, le traité constitutionnel européen, où les Français avaient, comme je vous le rappelle, en 2005 voté majoritairement, très majoritairement même, pour le non. Mmh. Et finalement, Sarkozy et d'autres avaient réussi à faire quand même passer en force ce traité par un autre biais. Et donc voilà, je trouve qu'on se rapproche un peu de ça, c'est-à-dire qu'il y a une décision des Français. Alors je rappelle que la décision des Français, c'est par deux fois de rejeter la politique d'Emmanuel Macron, mais non, c'est lui qui continue à décider, puisque la cinquième le lui permet. C'est lui qui continue tranquillement à décider qui il va nommer. Et effectivement, comme le suggère François Bonneau, ça ne peut pas être quelqu'un qui débarque comme ça de n'importe où, de la société civile, qui n'a aucun programme et qui ne rend de compte a priori à personne, ça n'existe pas. Et si c'est pour avoir un discours de politique générale qui soit quelque chose de complètement creux, qui pourrait être tenu par n'importe quel acteur politique de centre droit ou de centre gauche, ça n'a strictement aucun intérêt. Alors je ne parle même pas du cas Cazeneuve ou Bertrand. Qui là nous ferait revenir quelques décennies en arrière pour des gens qui ont apporté la preuve absolue et totale qu'ils sont complètement incompétents à diriger un ministère, a fortiori à gouverner le pays.
Ouais. Nous allons voir dans cette émission, en fin d'émission, le nouveau député NFP, nouveau Front Populaire, Emmanuel Duplessis, qui nous dit que le NFP reste solide. Tu les trouves comment, toi, là, jusqu'à maintenant, ce nouveau regroupement, le NFP?
Ah bah moi je trouve que chacun s'y exprime librement, hein, c'est ce qui est interprété comme des dissensions, mais je trouve que là pour l'instant ils font bloc autour de la candidature de Castex, donc pour moi c'est l'essentiel c'est le programme, qu'on s'entende pas sur tel point politique, social, je sais pas, ça me dérange pas, sinon il y aurait qu'un parti. Là c'est une espèce de communauté politique, c'est pas un parti unique, donc qui est des des voix dissonantes, des voix discordantes sur certains sujets, bah pourquoi pas, ça s'appelle la démocratie, hein, mais qu'ils soient d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire programme porté par le Nouveau Front Populaire, c'est l'essentiel. Le reste, c'est complètement accessoire, on n'est pas au PMU, on ne vote pas sur des... On vote pas sur des chevaux, on parie pas sur des chevaux, on doit respecter la volonté des Français et on doit surtout faire en sorte que bah, le programme pour lequel les Français ont majoritairement voté, qui est connu, qui est consultable, il faut respecter les urnes, sinon je ne sais pas derrière ce qui va se passer. Je ne vois pas d'autre option derrière, si effectivement il en fait de nouveau qu'à sa tête. Je ne vois pas d'autre option que la réponse, alors politique évidemment, mais surtout la réponse syndicale.
C'est-à-dire, comme
l'a proposé Sophie Binet, qu'il y ait à partir de fin septembre, parce qu'il faut bien laisser passer la rentrée, hein, c'est compliqué d'appeler à des mouvements de grève à la rentrée, mais je ne vois pas d'autre solution qu'une réponse économique et sociale, c'est-à-dire passer par les syndicats et passer par les salariés pour éventuellement avoir une grève, alors peut-être pas illimitée, mais enfin en tout cas fortement reconductible. Je pense qu'il n'y a plus que ça qu'ils peuvent entendre.
Merci à toi Mourad pour ta rentrée dans Abattant Rompu, la rentrée également aux médias hein, bientôt, dans jeudi je crois, non ?
Non, c'est j'enregistre ce mardi.
Oui, c'est diffusé
et, quand voilà, et c'est diffusé à partir de demain soir.
Demain soir. Eh ben, il faudra y aller, messieurs. L'œil de Moumou sur le média, et on est très content ici que ça recommence. Et le média, faut aider. Hein, faut redire aux amis auditeurs et auditrices qu'il faut aider le média, qu'il n'a pas pu avoir sa place sur la TNT, mais il faut aller les soutenir toujours.
Et c'est très gentil. Merci beaucoup, Hassan.
À bientôt, Mourad.
À très bientôt.
Fabulous 3, messieurs, dames. En fait, ils étaient 5, hein, les fabuleux 3. C'est un groupe, je crois, avec des Anglais et des Américains, des très grands groupes de ce qu'on appelle la rétro soul dans les années 90 à 2000. À l'instant, White Sands.
Marie, qui souhaite.
Alors oui, White Sands, pardon. White Sands, pour dire sable blanc. Hein. On reste un petit peu encore à la plage.
Ouf. Ah oui.
Non.
Ouais, non, t'as raison, hein, c'est vrai, avec la grisaille actuelle et la rentrée, c'est sûr qu'il faudrait qu'on se rassure un peu, mais j'ai peur que ça fasse l'effet inverse pour certains de nos auditeurs quand tu parles de ça, tu vois.
Allez, la rentrée, on en parle avec le nouveau recteur.
Rompu avec Hassan Kerim. Mais... Abattant Rompu avec Hassan Kerim. Abattant Rompu avec Hassan Kerim.
C'est moi.
T'aimes bien répéter, toi. Hein.
C'est ici. Non, mais je m'habitue là. Je suis en train de m'habituer à ce merveilleux.
Ça te perturbe.
Donc, oui, alors,
Oui, rentrez, bah oui, ding-dong, ding-dong, voilà. Bien sûr. Mmh. Hier matin, sonnaient les cloches de la rentrée pour les plus de 127 000 écoliers, collégiens et lycéens du Loiret. À cela s'ajoutent près de 9 500 enseignants rien que dans le département. Ça fait quand même du beau monde, hein, ouais. Tout ça. Je prends pas en compte hein, tout de l'Académie Orléans-Tours. Hein. Sur l'Académie Orléans-Tours, tu prends quand même en nombre d'élèves, je crois, 433 000 élèves au total, hein, ouais. Sur l'ensemble de l'Académie, premier et deuxième. Okay. Degré réuni, ouais, ça en fait du beau monde. Ouais. Une rentrée un peu spéciale quand même hein, pour Nicole Belloubet, hein, l'actuelle ministre.
Je suis venue dans cette.
Oh là, ouais, c'est, faut pas que ça parte maintenant.
Bah ouais, non, mais attends, là tu me fais des faux départs.
Je te dis que je suis en train de m'habituer. Vas-y.
C'est ce que je vois, ouais. Donc. Là, tu veux me perturber dès la rentrée, c'est son petit bisoutage, j'ai l'impression.
C'est ça.
Je disais une rentrée un peu spéciale pour Nicole Belloubet que vous avez entendu tout à l'heure et que vous allez entendre dans quelques instants. L'actuelle ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse est sur un siège éjectable dans l'attente de l'annonce du futur premier ministre et de son nouveau gouvernement. Mais en attendant, elle doit gérer les affaires courantes et la bonne tenue des dispositifs mis en place depuis un bon moment. Illustration hier après-midi à Orléans, puisque la ministre était à l'école maternelle Pauline Kergomar sur le quartier de la Source. Il s'agissait pour elle de visiter un établissement bénéficiant du dispositif de dédoublement des classes pour les grandes sections. Dispositif dont la mise en place avait débuté en 2019 et s'est achevée sur l'ensemble des établissements scolaires REP+ de France pour cette rentrée.
Je suis venue dans cette école située en éducation prioritaire pour montrer à quel point le travail des enseignants qui bénéficient d'un dédoublement des classes de grande section CP, CE1, dédoublement qui sera effectué à 100% cette année, à quel point ce travail peut produire des résultats pour nos élèves. Et c'est cela que je voulais souligner en venant dans cette école. Dire que pouvoir travailler avec des élèves dans des petits groupes, cela permet de lutter contre les assignations sociales, contre les risques d'échec scolaire. Et cela, c'est le travail de nos enseignants, le travail de nos directeurs d'école que je salue ici, et les moyens qui sont mis évidemment par l'État pour ce dédoublement de classe qui donne des résultats. Nous l'avons vu cette année, puisque cette année nous avons fait des évaluations en 6e et que c'est la première fois que nous avons pu avoir une cohorte complète d'élèves qui avaient bénéficié de ce dédoublement des classes dans leur scolarité, et on le voit, les résultats sont meilleurs. On peut progresser davantage encore, mais d'ores et déjà, on peut dire que sur certains items des évaluations de 6e, les résultats sont meilleurs. C'est donc cela que je suis venue souligner aujourd'hui.
Et au-delà de cette mesure simple, il faut évoquer aussi le fait que la ministre a été interrogée sur la bonne tenue de la rentrée de cette année, alors qu'on annonçait en juillet dernier que plus de 3000 postes d'enseignants du public et du privé n'avaient pas été pourvus au cours des derniers concours.
D'académie et avec l'ensemble de l'administration de l'éducation nationale pour faire en sorte qu'il y ait des professeurs devant les classes et que les choses se déroulent au mieux possible pour nos 12 millions d'élèves, nos 850 000 enseignants auxquels je souhaite à tous bonne rentrée ainsi qu'aux familles d'ailleurs.
Et pour parler de l'Académie Orléans-Tours, le nouveau recteur Jean-Philippe Agresti assurait ce vendredi lors d'un point presse au rectorat que des brigades de remplacement étaient déjà prêtes et que la rentrée s'amorçait de la bonne manière selon lui.
La rentrée est préparée depuis 10 mois. Il y aura bien un enseignant devant chaque classe, pas de problème structurel dans l'académie. Il n'y a pas de tension structurelle, il y a des disciplines dans le second degré sur lesquelles nous sommes particulièrement attentifs, le français, l'anglais et quelques disciplines en formation professionnelle, des disciplines que je qualifierais de niche.
Mais rien d'alarmant selon le haut fonctionnaire qui indiquait d'ailleurs que le recours aux enseignants contractuels est de seulement 1% dans le premier degré et de 8% dans le second degré en début d'année scolaire. Jean-Philippe Agresti a été nommé en juillet dernier au sein de l'Académie Orléans-Tours, professeur d'histoire du droit, spécialiste du droit de la famille. Il a été élu doyen de la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille avant de devenir recteur de l'Académie de Corse en décembre 2021. Lors de ce point presse de présentation aux médias, l'universitaire a utilisé une formule mise en avant par nos confrères de la REP. « Je ne suis pas là pour compter les trombones », dit-il. Ou autrement dit, « Je ne suis pas là pour faire des économies de bout de chandelle ». Et en même temps, comme dirait un certain président de la République...
« Je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour compter les trombones. En revanche, je suis aussi là pour rappeler une réalité. Est-ce que vous savez combien, à la louche, la nation consacre à un élève lorsqu'elle le prend en maternelle et qu'elle l'amène au baccalauréat. À la louche, c'est 110 à 120 000 euros par élève.
Oui, c'est ça.
Nous avons 12 millions d'élèves à la rentrée. Donc, nos concitoyens, enfin, je veux dire, ils n'accepteraient pas non plus que, avec les deniers publics, on les gère absolument n'importe comment. Parce que c'est, cet argent, c'est... Donc, c'est une réalité. Donc, y a, là aussi, on n'est pas là pour compter les trombones, mais on est là aussi pour avoir... Essayer d'avoir une gestion qui soit soutenable devant nos concitoyens. Et moi, je suis absolument ravi que la nation fasse, fasse ce sacrifice, évidemment, pour tous les enfants de la République. Mais il faut réaliser, hein, parce que vous avez trois enfants dans une famille, que les trois vont devenir bacheliers, je ne prends pas l'enseignement supérieur, la nation consacre près de plus de 350 000 euros afin de notre enfant. C'est une réalité.
Et on l'a compris, donc, une attention sur les dépenses de l'académie sera apportée. La carte scolaire sera également fortement étudiée pour la prochaine rentrée. Oui, parce que le recteur l'a bien précisé, on fait la rentrée en septembre et tout de suite après, 10 mois avant, on commence déjà à préparer la prochaine rentrée. Et on prend en compte, évidemment, donc, ce que je disais, la carte scolaire avec une baisse structurelle du nombre d'élèves dans l'académie Orléans-Tours. Elle sera donc retravaillée et même si le recteur n'en parle pas pour l'instant, on peut s'attendre dans et déjà, je pense à de nouvelles fermetures de classes par la suite, si on suit en tout cas la logique des années précédentes.
Structurel des nombres d'élèves dans notre académie, dans le premier tout particulièrement, mais aussi dans le second degré. Donc là, avec les élus et l'ensemble des acteurs éducatifs, nous travaillons sur la carte scolaire afin d'anticiper au mieux ces baisses démographiques. Il peut y avoir des points de tension sur la question de la carte scolaire, mais globalement, nous sommes dans une région académique, dans une académie qui est apaisée sur ces questions-là, mais nous traitons chacun des dossiers avec la même attention, chaque classe, chaque enseignant, chaque élève et chaque élu local. Pour la rentrée, toutes les classes sont ouvertes, donc tous les problèmes sont gérés. Nous allons travailler désormais à la rentrée prochaine. Et donc là, des points pourront se révéler et des discussions avec les élus locaux pourront avoir lieu.
Et concernant sa feuille de route, le recteur a fixé trois objectifs prioritaires au cours de ce point presse. 1. La réussite de tous les élèves en donnant la capacité aux plus performants d'aller plus loin et, je le cite, en ne laissant personne sur le bord de la route, dit autrement, axé sur les fameux savoirs fondamentaux, mais aussi, précise-t-il, porter une attention particulière à l'éducation populaire et rurale, selon ses mots, de forts enjeux pour lui.
Cette académie est une académie où le travail est bien fait, les élèves ont un bon niveau et de bons résultats aux examens, mais il y a des enjeux. Il y a des enjeux forts, je citerai l'enjeu de la ruralité, qui est un enjeu très marquant de l'académie. Je citerai aussi l'enjeu de l'ambition scolaire, qui n'est pas sans lien avec le premier, puisque à côté des assignations sociales, il faut lutter contre les assignations territoriale et le travail sur l'ambition scolaire sera une priorité.
Et le recteur a aussi insisté sur son deuxième point. Je serai intransigeant sur la laïcité et sur la lutte contre le harcèlement et toutes les formes de violence et de discrimination, a-t-il martelé. Et enfin, Jean-Philippe Agresti veut mettre l'accent sur les questions relatives à l'orientation au sens large et notamment la destruction des stéréotypes de genre pour de nombreux métiers. De manière générale, on attendra dans le second degré la mise en place des groupes de besoins, mesures qui hérissent le poil de nombreux enseignants qui craignent qu'ils accentuent les inégalités sociales en mettant les plus performants ensemble et les moins performants entre eux.
La mise en place des groupes de besoins s'est faite dans cette académie avec une grande latitude. Latitude qui est laissée par les textes. Les textes permettent aux collèges de mettre en œuvre leur autonomie pour la mise en place des groupes de besoins. D'abord, 2/3 des cours qui ont lieu en groupe classe, et puis pour les mathématiques et le français en 6e et en 5e, ensuite, la mise en place des groupes de besoins. Et cette mise en place des groupes de besoins, avec le contrôle des corps d'inspection, les chefs d'établissement et les équipes, s'est faite en fonction des besoins de chaque établissement, en fonction des besoins de chaque collège.
Et on a aussi évoqué le handicap. Au cours de ce point presse, je vous propose de l'écouter.
Évidemment, dans cette année olympique et paralympique, Et c'est un symbole fort qui doit nous montrer le chemin. C'est plus de 6000 élèves qui vont se rendre aux Jeux Olympiques et Paralympiques dans cette académie. Donc l'inclusion est une priorité. Là aussi, comme pour les enseignements et les enseignants, nous sommes en phase terminale d'affectation pour l'accompagnement. Et dès lundi, nous travaillerons sur le remplacement et à la résolution de tous les besoins en accompagnement dans toute l'académie. Les besoins dans l'académie sont pourvus. Dans la plus grande majorité des cas, il nous reste quelques dossiers. Les équipes sont sur ces dossiers pour trouver des solutions. Il n'y a pas une AOSH pour chaque élève. En fonction des prescriptions qui nous sont données, évidemment, le système AESH d'accompagnement est adapté aux besoins de l'élève. Parfois, dans des pathologies très lourdes, il y a une AESH ou un AESH avec un élève. Parfois, c'est quelques heures dans la semaine. Tout le monde aura une solution. Nous mettons tout en œuvre pour que tout le monde ait une solution.
Et comme on est Radio Campus, ça aurait été quand même dommage de ne pas évoquer aussi l'Université d'Orléans. Et je vous propose d'écouter le regard rapide du recteur à ce propos.
Alors une question fondamentale en matière d'enseignement supérieur dans cette région académique est évidemment la question de l'offre de formation en matière de santé. Donc nous continuons à travailler avec les deux universités, Tours et Orléans, vous le savez. Donc nous avons régulièrement un travail là-dessus avec la directrice de l'Agence régionale de santé, avec les CHU, avec l'ensemble des acteurs du monde de la santé, la région et le président de région, bien évidemment, le maire d'Orléans pour ce qui concerne la question de la formation à Orléans plus particulièrement. Donc là, c'est un dossier qui continue à avancer. Concernant les autres sujets de l'enseignement supérieur, évidemment, j'ai pris acte de toutes les demandes, de tous les besoins, et avec tous les acteurs, notamment sur la question de sciences politiques, je prends connaissance des dossiers, nous travaillons ensemble sur ces sujets.
Un gros programme donc développé par le recteur de l'Académie Orléans-Tours, mais reste à savoir si l'homme restera longtemps en place. Nommé, je le rappelle, en juillet dernier, Jean-Philippe Agresti est certainement dans l'attente du nouveau gouvernement, comme tous les Français. Son poste sera-t-il prolongé ou coupé ?
Il n'est pas à moi de décider si je dois être là sur la longue durée ou pas. Il appartient aux autorités qui prennent les décisions. Et je rappelle qu'un recteur est nommé en Conseil des ministres par le président de la République. Si vous demandez à Jean-Philippe Agresti en tant que recteur, il entend bien s'installer et œuvrer aux côtés des équipes durablement et avec engagement.
Les paris sont ouverts, donc Hassan, est-ce que tu mettrais toi de l'argent dessus?
Vu le parcours très rapide des deux derniers recteurs, je ne m'avancerai pas. Oui. En tout cas, très belle interview, merci à toi, un très beau reportage.
Pas de souci. Et pour rappel, pour les auditeurs aussi, on fera un sujet complet dans la rédac pop en fin de semaine prochaine, puisqu'on va rencontrer des représentants de la fédération syndicale FSU du premier et du deuxième degré, pour avoir aussi leur point de vue sur cette rentrée, sur les enjeux, les problématiques aussi qu'ils ont observé. Bref, on va essayer d'être le plus complet possible.
Et ben, comme tu sais le faire. Thomas Deray, messieurs, dames.
Merci.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Allez, sans transition, nous allons écouter maintenant Emmanuel Duplessis, député élu au mois de juillet. Alors c'est le 7, je crois, je ne sais plus exactement les dates de la dernière élection provoquée par le président de la République. Dissolution, vous le rappelez, dissolution de folie. Emmanuel Duplessis, en tout cas ça a permis à Emmanuel Duplessis d'être élu. Emmanuel Duplessis, Nouveau Front Populaire, on disait, hein, Génération, ouais. Également le mouvement Génération.
Et on rappelle qu'il n'y avait aucun député de gauche sur les 6 du département du Loiret.
Donc, absolument.
Ce remaniement, enfin cette dissolution a permis ça.
Je l'ai rencontré donc il y a quelques jours à la terrasse d'un café à Orléans, au centre-ville d'Orléans, et je lui ai demandé, on venait d'apprendre que le président de la République avait dit, après avoir consulté notamment le groupe Nouveau Front Populaire et leur candidate à Matignon, Madame Lucie Castet, qu'il ne privilégierait pas cette option. J'ai demandé à Emmanuel Duplessis comment il avait accueilli cette décision qui était envoyée, je crois, par communiqué, je crois. Allez, écoutez Emmanuel Duplessis.
Ben avec une certaine surprise, hein, quand même. Alors on sait, hein, l'état de l'Assemblée, avec le fait qu'il y a un bloc majoritaire qui est celui du NFP avec plus de 193 députés, le groupe RN qui est autour de 110 députés et qui peut monter à 135 avec les LRRN, et puis divers groupes de droite, et puis le groupe Ensemble qui est composé d'à peu près 150 députés quand on mélange les Modem, les Horizons et les et les renaissances. Et donc nous, on est assez surpris parce que finalement, ça fait 6-7 mois, 6-7 semaines que le président essaie de construire une autre majorité relative et qu'il n'y arrive pas, notamment avec les LR. Pourtant, c'est quand même, à mon sens, l'offre politique qui est la plus proche. Hein. D'ailleurs, on sait qu'entre 2022 et 2024, quasiment l'ensemble des lois qui ont été portées par le gouvernement ont pu passer à l'Assemblée grâce aux voix des LR. Donc finalement, ça fait déjà 2 ans quasiment qu'ils gouvernent ensemble sans le dire, et aujourd'hui on se retrouve dans une situation de blocage parce que la droite et le centre n'arrivent pas à créer une majorité relative et pour autant refusent d'admettre que, ben, sauf à ce qu'ils proposent une nouvelle coalition, celle du NFP est majoritaire, et quand bien même on n'aurait pas de majorité absolue, le fait qu'on soit le groupe majoritaire fait qu'on devrait avoir le gouvernement. Et donc là, on voit bien que dans les premiers échanges, on avait encore un retour de LR qui dit bon, c'était très décevant. En même temps, je pense qu'ils n'ont peut-être pas forcément le rapport de force avec moins d'une quarantaine de députés pour négocier tant que ça avec Renaissance, qu'on a quand même autour de 140. Et donc l'enjeu là, ça va être, est-ce que l'ensemble de la Macronie va se soumettre à LR pour créer une majorité relative face au NFP ? Moi, personnellement, j'y crois pas. Je pense qu'il y a un certain nombre de députés, notamment du centre, qui ont bien conscience qu'ils ont mené pendant plusieurs années des politiques très à droite et que la nécessité de rééquilibrer les politiques publiques, notamment en faveur des classes défavorisées et populaires, et notamment en faveur du monde du travail, peut apparaître comme une nécessité pour un certain nombre de députés centristes. Et donc aujourd'hui, moi, je crois vraiment voilà, qu'il faut qu'on tienne bon. On est le premier groupe, on a une ossature quand même qui est claire. On est la seule force politique qui défend le fait qu'il faut aller chercher des nouvelles recettes dans une logique de justice sociale pour pouvoir refinancer de nouvelles actions, notamment l'investissement dans l'hôpital, dans l'école, et puis évidemment dans le pouvoir d'achat avec la hausse du SMIC, l'abrogation de la réforme des retraites.
Alors la colère est forte hein, au sein du NFP, LFI, la France Insoumise, est appelée à des manifestations dans toute la France. Un rassemblement est prévu le 7 septembre prochain. Est-ce que c'est votre point de vue également ? Est-ce qu'il faut aller dans la rue ?
Oui, je pense que tous ceux qui sont mécontents de la situation et notamment de la situation de blocage hein, dans laquelle nous met le président de la République, hein, qui est notamment, ben là ça va faire presque 2 mois qu'on n'a pas de gouvernement, il nous réannonce une semaine de discussion, je vois pas bien ce qui pourrait se passer dans cette semaine de nouvelles discussions. Donc en effet, la question aujourd'hui de est-ce que le président est dans son rôle et assure ses devoirs se pose de plus en plus, et moi en effet, j'appelle l'ensemble des citoyens et des citoyennes à faire entendre leur point de vue. Alors c'est jamais facile de perdre une élection, mais je crois que la gauche, quand elle a perdu des élections, elle a toujours reconnu la victoire de la droite, et même si on n'était pas en accord du tout avec le projet politique qui a pu être conduit, que ce soit par Macron ou par d'autres gouvernements de droite, eh bien c'est le jeu de la démocratie d'accepter que c'est eux qui ont gagné les élections. Et donc aujourd'hui, je crois que une partie de la droite doit accepter le verdict des urnes. Et tous les citoyens qui pensent qu'il faut qu'en effet que la situation se débloque, que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin et accepte ce qu'a donné le résultat des urnes, bien, qu'ils expriment leur envie.
Je voudrais maintenant que vous nous parliez du programme du Nouveau Front Populaire. Votre candidate, Lucie Casté, vous l'avez rencontrée, hein, elle est venue ici notamment voir les ouvriers de l'usine Duralex qui étaient sauvés. Quels sont les grands points de ce programme, notamment économique ?
Mais les grands points aujourd'hui sont de lutter contre la précarité, hein, notamment avec évidemment la hausse du SMIC, la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, notamment des catégories C, avec cette idée hein, on connaît hein, l'état des finances publiques, hein, quand même ce qui a caractérisé le mandat d'Emmanuel Macron, outre qu'il y a eu énormément de politiques publiques favorables aux plus aisés, c'est aussi des dégrèvements d'impôts, des soutiens aux privés sans conditionnalité, avec des effets qui sont légers. Moi, quand même, j'ai un chiffre en tête, parce que c'était l'une des fiertés quand même du gouvernement, de dire qu'ils ont créé de l'emploi. Et dans le même temps, on a une augmentation de la pauvreté. Et je crois que c'est ce qui caractérise la politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire créer de la valeur, mais finalement de la valeur qui va toujours dans les mêmes poches et qui délite notre société. Je peux comprendre que des gens qui vont mal quand tout va bien autour d'eux, qui ne comprennent pas bien ce qui se passe et pourquoi l'effort n'est pas mieux partagé. Donc aujourd'hui, nous, c'est un projet de relance de l'économie en donnant du pouvoir d'achat aux plus modestes pour qu'ils puissent de nouveau vivre, faire tourner nos entreprises. Enfin, on le voit bien, hein, tout est lié. Hein, quand les gens n'ont plus d'argent et qu'ils doivent aller acheter des baguettes à 30 centimes à Carrefour au lieu d'aller prendre une vraie baguette en boulangerie, c'est des artisans qui ont moins de chiffre d'affaires, c'est des commerces de proximité qui ferment. Et c'est comment on recrée un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, il doit être pensé sur une consommation d'abord des classes populaires. Et puis évidemment, il y a aussi toute la dimension écologique, hein, qui a bien disparu. Pourtant, on voit les catastrophes naturelles sont loin de cesser. Et donc, il y a tout un enjeu à comment on refinance des services publics de qualité, notamment de transport collectif, comment on fait émerger les mobilités douces, comment on accompagne aussi les familles qui ont la nécessité pour le moment d'utiliser leur voiture régulièrement et qui peuvent, pour un certain nombre de salaires qui ne sont pas si élevés que ça, correspondre à une charge très importante dans le budget des familles. Je pense notamment à tous ceux qui sont à une vingtaine, trentaine de kilomètres de leur travail, et aussi qui, pour tous les services du quotidien, je vois moi sur ma circonscription, dès qu'on quitte la métropole d'Orléans, et tout ce qui est commerce, service, et forcément il faut revenir vers la métropole pour y avoir accès. Et donc, que ce soit sur les loisirs, sur les achats courants, on rajoute des besoins de déplacement. Et donc il y a un enjeu à comment on repermet à des commerces de proximité, de bouche, des services publics fondamentaux, de se réinstaller en ruralité et en périphérie des grandes villes.
Voilà, j'allais dire Olivier. Emmanuel Duplessis, à qui j'ai posé aussi la question sur la précarité étudiante. Hein, je vous disais, il était élu étudiant il y a pas très longtemps. On aura l'occasion de repasser ça dans une autre émission. Merci à toi, Monsieur Thomas Deray, d'avoir passé cette première avec moi.
Oh, je t'en prie. C'était toujours un plaisir. Bon, la rentrée est un peu difficile.
La rentrée.
Ouais, tu sais, quand tu t'es habitué un peu à un certain rythme.
Nous sommes d'accord. Et puis s'habituer à tout ce qu'il y a devant moi là. Mais cette table, je vais la dompter. Je vais la dompter. À bâton rompu, reviens la semaine.
Dompter des choses beaucoup plus. Sauvages.
Mais faut lui dire. On va en parler. Tout ça. Dans la suite des programmes à Radio Campus Orléans, on attendait Ride On, l'émission de reggae, mais ils sont pas encore là. Peut-être ils arriveront pour 8h et à tour du jazz, vous le savez, à 21h. Passez une très belle semaine.
Ouais. N'oubliez pas rentrer en fête, notamment qui se passe ce dimanche. Orléans, c'est ça. On y sera, nous, à Radio Campus.
D'accord.
Je me dis que ça peut être bien aussi de quand même de faire un point. Voilà.
Venez à notre rencontre.
Là, en ce moment, on a pas mal d'étudiants là qui tournent pour aller découvrir l'université. Là, toi et moi, d'ailleurs, on a présenté tout à l'heure
avec plaisir
ce qu'était la radio à des amis de BDE Polytech qui faisaient le tour, qui sont passés devant. Et en fait, comme pour beaucoup d'étudiants qui ne savent pas ce qu'est ce bâtiment qui ressemble à un espèce de pot de yaourt retourné qui s'appelle le Cône, en plein milieu du campus, entre la BU de lettres, la fac de lettres et le Bouillon. Eh bien, venez nous voir, c'est Radio Campus Orléans. On sera présent sur Entrée en Fête. Et puis, si vous n'avez pas forcément envie de faire de la radio, je ne doute pas que vous trouverez une association qui sera tout indiquée pour vous accueillir au cours de cette année à Orléans.
Ah, ben oui. Et alors, cet événement commence le matin. Il commence le matin et il termine soir vers 18h.
D'ailleurs, nous.
Dans les rues du centre-ville d'Orléans.
Ouais. Nous, pour la Rédac Pop, on sera présent. Pour Radio Campus, on sera présent, mais pour la Rédac Pop aussi, moi, je prévois un petit truc avec quelques jeunes de la mission locale de l'Orléanais, qui sont suivis par la mission locale de l'Orléanais. On est en train de faire un projet en lien avec l'association Anti-Rouille qui tient l'Astrolab. C'est un projet où on va les amener, en fait, à faire des interviews en direct au cours du festival Hop Hop Hop.
Hop, hop, hop.
Ce samedi, on aura deux émissions, en fait, de 15h à 19h, le vendredi 13 et le samedi 14 septembre, où les artistes qui sont à la programmation de ce festival de musique s'enchaîneront au micro de Radio Campus. Il y aura notamment aussi des showcases qui seront prévus à certains moments. Et donc, ces jeunes adultes de la mission locale de l'Orléanais, que j'ai le plaisir de suivre, vont s'exercer un petit peu à l'interview en allant voir différents acteurs associatifs, responsables associatifs au cours de rentrée en fête. Donc, je vais compiler un petit peu tout ce qu'ils vont recueillir et puis on en fera une petite émission certainement de 50 minutes, une heure pour la Rédac Pop, pour faire un peu le tour des associations. Et puis après, Le Grand Bain, l'émission en direct pour ces jeunes adultes.
Bah, alors, rappelle-nous, la rédac pop, c'est à lire. Hein, oui. Il y a un site, mais c'est aussi à écouter.
À écouter aussi.
Alors, c'est tous les samedis?
C'est tous les samedis, ouais, de 15h à 16h. Alors, on a parfois quelques rediffusions parce que c'est un petit peu compliqué humainement de faire à chaque fois une émission toutes les semaines avec toutes les autres trucs que l'on a à faire à côté. Mais oui, on essaie quand même de faire régulièrement de nouveaux contenus, de nouvelles émissions. Je suis aidé en cela par notamment Steven. Notre ami que vous entendez régulièrement dans Abattons Rompu. Absolument. Et qui est le contributeur certainement le plus régulier de la rédac pop, et je passe un appel et je passerai certainement de nouveaux appels au cours de cette année. Venez nous rejoindre si vous avez envie de faire du journalisme, de parler de choses qui vous touchent, de faire parler aussi des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir un micro en main. Si vous voulez vous former au journalisme, essayez un petit peu cette belle pratique, elle est accessible à tout le monde. Voilà, on n'est pas forcément obligé d'avoir fait des études, d'avoir fait des choses, c'est simplement maîtriser quelques aspects méthodologiques, et je suis là, voilà, en tant que journaliste professionnel pour justement vous guider, absolument, vous accompagner. Voilà.
Et il fait ça bien. Steven, dont tu parlais, a même fait un reportage en dehors d'Orléans et de la région France. Il était à Nantes.
Ouais, c'est ça.
On écoutera son reportage dans 15 jours, normalement.
Pour parler de rétention, notamment
voilà,
centre de rétention.
De centre de rétention. Et parce que la semaine prochaine, nous sommes normalement avec les amis du monde diplomatique qui font leur entrée également. Passez une belle soirée, je disais, une belle semaine, revenez mardi prochain. Nous allons terminer cette émission musique avec une sortie là qui m'a bien pris les tripes et m'a mis les poils très, très haut. C'est la reprise d'une des plus grandes chansons de Bob Marley par un musicien anglais d'origine iranienne qui s'appelle Sepp Osley. Il reprend Redemption Song là. Et dans la chanson, vous allez entendre des paroles de Toumaj. Toumaj est le musicien, le rappeur iranien qui a été condamné à mort. Il sera pas pendu, je vous l'avais dit dans cette émission. Sa réclusion était... le grand guide là a dit on va pas pendre un rappeur parce que dans le monde entier tout le monde m'a écrit. Continuez à écrire. Hein. Il y a une page d'ailleurs encore pour Toumaj, T-2-O-M-A-J, pour qu'il sorte de prison, quoi, parce que sa place n'est pas en prison. Voici Redemption Song pour terminer cette émission à bâton rompu, la première de la saison, et revenez mardi prochain, on vous attend.
More pirates, yes, they rob by. So lie to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. None of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Oh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the bow. Won't you help to sing of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs.
من اومدم در واقع بگم همدیگه رو دوست داشته باشیم، اهمیت بدیم به همدیگه. اومدم نشون بدم، بگم که ببینید من مردم رو دوست داشتم که واکنشی گرفتم ازشون. ببینید چه چیز خوبیه. اهمیت دادن به همدیگه. این باعث میشه که اینکه ما به همدیگه همدت بدیم، که توی جامعه همدیگه رو دوست داشته باشیم، خانواده ببینیم یک جامعه رو. امروز اگه من یاد بگیرم اهمیت بدم به دیگران، روزی اگه من نیاز داشته باشم به کمک، دیگران هم به من اهمیت میدن، جامعه اینجور شکل میگیره.
None of them can stop the time.